Bonsoir.
Bonsoir. Alors, petit bug d'introduction, mais tout va bien. C'est bien le Canu Info du lundi. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et donc, on commence tout de suite avec les titres.
Alors, voilà, à l'international, on va commencer par parler de l'Inde, où il y a un renforcement de l'autoritarisme. Et puis, on ira à Hong Kong, où c'est les manifestations qui reprennent.
Puis on passera au national après une petite pause musicale où on parlera d'abord de l'extrême droite et de Macron, une romance continue. On enchaînera sur un petit sujet sur Pénicaud qui s'acharne sur Éric Bézou. Et ensuite, on parlera de la grève de la faim au crâne de Ménilablo.
Oui.
Alors, on ne sait pas si on est vraiment
On a eu un petit problème.
Si, on est à l'antenne.
Si, on est à l'antenne. Ouais.
C'est juste que ton micro ne doit pas marcher.
Ouais. On va continuer. Alors oui, les titres au national. Donc on va commencer avec un sujet et Macron qui flirte de plus en plus à l'extrême droite. Puis on passera à un sujet sur la ministre du Travail, Pénicaud, qui s'acharne de plus en plus sur un syndicaliste cheminot. Puis on passera à la grève de la faim, nouvelle grève de la faim au CRA de Ménilamlo. Et ensuite, on passera au récit d'une manifestation qui a eu lieu à Paris devant l'hôpital Robert Debré. Et ensuite, on passera sur un sujet outre-mer en Martinique, donc avec notamment des actes de vandalisme anticolonialiste. Puis, pour terminer, deux derniers sujets. Un sur le mouvement pour réclamer justice à Sabri à Argenteuil, une victime de violences policières. Et encore sur les violences policières, on finissera avec l'affaire Camélia Jordana.
Et donc on commence avec l'international pour parler de l'Inde.
Et oui, un petit sujet sur le renforcement autoritaire en Inde. Et comment elle est gérée cette crise en Inde et surtout quelles conséquences elle a eu sur le mouvement de contestation qui avait débuté, on en avait parlé ici, rappelez-vous-en, qui avait débuté donc avant le confinement, largement avant, contre le premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi. Alors en 2019, la réélection de Modi s'est faite sur le thème du nationalisme hindou. Le gouvernement qu'il dirige en tant que Premier ministre depuis 2014 est dirigé donc par le Parti indien du peuple, le BJP, qui est clairement d'extrême droite et qui se pose, Modi du coup, comme garant de la sécurité des hindous face à l'État ouvertement islamique du Pakistan. Sa politique donc se fait sur un fond anti-musulman et sa stratégie consiste globalement à régner en renforçant les divisions intercommunautaires. Mais ça, c'était sans compter la vague de protestations inédites qui prend naissance suite à une succession de décisions qui sont largement discriminatoires. C'est d'abord la soumission de l'État du Cachemire, qui est le seul État à majorité musulmane de l'Inde, décision donc de le rattacher au gouvernement central qui avait suscité le mécontentement. Celui-ci a ensuite été renforcé par l'autorisation de construire un temple hindou à la place d'une mosquée dans l'Uttar Pradesh. Mais c'est surtout l'adoption, en début décembre 2019, du Code de la nationalité qui a fait exploser la colère de milliers d'habitants. Cet amendement permet aux hindous, fuyant les persécutions religieuses du Pakistan, du Bangladesh et de l'Afghanistan, d'accéder facilement à la nationalité indienne. Mais il est très discriminatoire puisqu'il favorise l'acquisition de la nationalité indienne pour les non-musulmans, reléguant les 200 millions de musulmans du pays à un statut inférieur, ce qui remet en plus en cause le sécularisme indien qui prescrit une distanciation égale de l'État vis-à-vis de toutes les religions du pays, enfin théoriquement. Ces mesures ont donc déclenché des manifs énormes du quasiment jamais vu depuis des années en Inde, surtout dans l'université musulmane de New Delhi, où se sont mêlés musulmans et militants hindous progressistes. Avant le début de la crise sanitaire, donc, la violence de la répression policière dans les quartiers musulmans était très forte, mais le coronavirus et le confinement ont brutalement mis un terme à la contestation. Dans ce pays, donc, où il existe quand même 0,7 lit d'hôpital pour 1000 habitants, ce qui est vraiment rien, l'État ultranationaliste a pris une série de décisions politiques qui a sacrifié la partie la plus pauvre de la population. Déclaré seulement 4 heures avant son application, le confinement, ainsi que la fermeture des frontières internes, ont particulièrement touché 90% des emplois qui relèvent en fait du secteur informel, secteur qui est composé de jobs payés à la journée et au noir. Ceci a évidemment plongé des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses informels qui sont sans économie dans une misère du jour au lendemain. Privés de contrats et de cartes de travail, sans ressources, ceux-ci et celles-ci ne pouvaient pas non plus accéder aux quelques subventions qui avaient été lâchées par l'État. Et par conséquent, plus de la moitié d'entre eux et d'elles malgré l'interdiction de traverser les frontières, ont quitté la ville à pied pour retrouver leur village, déclenchant ainsi la plus grande vague de migration interne au pays depuis la partition en 1947, donc la séparation avec le Pakistan. Alors que la famine menaçait certaines régions et certains quartiers, le gouvernement ne veut toujours pas puiser dans ses stocks alimentaires pour des raisons surtout comptables et budgétaires, ce qui fait qu'il criminalise en fait tous ceux et celles qui cherchent à traverser les frontières entre les États. Il prolonge ainsi un système de caste et assume clairement l'abandon des plus pauvres, en particulier dans les bidonvilles qui sont surpeuplées, où le concept de distanciation sociale n'a absolument aucun sens. Ces décisions brutales donc, et soudaines, surtout 4 heures avant, c'est quand même pas beaucoup pour s'organiser, sont prises sans aucune concertation et elles s'inscrivent dans une stratégie politique inégalitaire qui vise à communautariser la gestion de la crise tout en sacralisant le pouvoir autoritaire et ultranationaliste de Modi.
Et on va prendre des nouvelles de Hong Kong.
Oui, voilà. Alors j'imagine que vous n'avez pas oublié les mois de manifestations qui ont lieu à Hong Kong. Manifestations essentiellement pour ne pas vivre sous le même régime que la Chine continentale. Les Hongkongais, vous vous en souvenez, avaient obtenu la suspension d'un projet de loi sur l'extradition, mais avaient tout de même continué à manifester parce qu'ils avaient aussi des demandes par rapport aux violences policières et au mode de sélection de leurs dirigeants. Est arrivé le Covid-19, mettant de fait fin à ces manifestations. Temporairement, en fait, puisque encore le 11 mai dernier, 230 manifestants étaient arrêtés et 23 étaient envoyés à l'hôpital. Ceci dit, le pouvoir chinois n'était pas pour autant satisfait de ces mois d'agitation qui démontraient que les Hongkongais n'étaient pas soumis à l'autoritarisme du gouvernement chinois. Le 21 mai, le Parlement chinois a alors annoncé qu'allait arriver une loi sur la protection de la sécurité nationale à Hong Kong. A priori, cette loi permettra à la Chine de justifier plus facilement son intervention à Hong Kong. Elle voudrait remettre un article de la sorte de constitution de Hong Kong qui interdit la trahison, la sécession, la sédition et la subversion, mais qui n'avait jamais été adopté jusque-là. Notamment parce que lorsqu'il en a été question en 2003, il y a eu déjà énormément de manifestations. Pour cette nouvelle tentative, Carrie Lam, donc la chef de l'exécutif hongkongais, soutient tout à fait la Chine en disant que c'est dans son bon droit. Et donc, dès l'annonce de ce projet, des manifestants se sont réunis devant le bureau de la représentation chinoise et s'en suivent plusieurs arrestations. Et hier encore, ils étaient des milliers à braver l'interdiction de manifester, puisqu'interdiction de se rassembler à plus de 8 en ce moment, avec des tentatives de blocage de route pendant plusieurs heures et des affrontements avec la police. Cette fois-ci, c'est 120 arrestations comptées en début d'après-midi, donc sûrement plus sur toute la journée. Les Hongkongais ont plus peur du pouvoir chinois que du coronavirus, et pour cause. Il s'agit, contrairement au projet de loi local qui avait provoqué les dernières manifestations il y a quelques mois, non pas de demander au pouvoir local d'envoyer les dissidents en Chine continentale, mais cette fois d'une autre loi du pouvoir central qui lui permettra de venir directement les chercher. À savoir qu'une autre loi, encore une autre loi va être examinée ce mercredi et qui vise à interdire tout outrage à l'hymne national chinois. Il s'agit d'un retour du mouvement hongkongais qui va très certainement reprendre, puisque dans maintenant 10 jours, nous serons le 4 juin, et le 4 juin à Hong Kong a lieu chaque année une immense manifestation pour la commémoration des événements de la place Tiananmen. Manifestation qui fait évidemment rager chaque année le pouvoir central qui se bat contre toute mention de cet événement, notamment par une censure très efficace d'Internet. Et pourtant, il est toujours aussi important de dénoncer le pouvoir chinois qui n'hésite pas à écraser, tuer et réécrire l'histoire. Aujourd'hui, on pense en particulier aux Ouïghours qui se font interner, fichés, stérilisés et torturés dans l'impunité la plus totale. Alors vivement le 4 juin, et c'est partout qu'il faut dénoncer l'autoritarisme du gouvernement chinois et surtout dénoncer le silence du monde occidental. Et ce silence, il est dû au capitalisme, au libre-échange. Puisque oui, la Chine n'est pas communiste. C'est un pays où une minorité amasse des fortunes monstres avec des inégalités sociales colossales. Les 1% les plus riches détenaient en 2017 la moitié des richesses du pays. Et ces 1%, ils exploitent, ils vendent à l'étranger. Et c'est bien le libéralisme qui empêche de critiquer ses partenaires commerciaux. Alors on souhaite tout autant la chute du pouvoir chinois en place que celle des capitalistes de tous les pays.
Et maintenant, comme transition, un classique du rap français, c'est le morceau Samouraï de Shuriken. Yeah.
Qu'est-ce que t'as à me regarder ?
Moi ?
toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claque pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération. En guerre permanente avec les autres, les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni, où tu te crois mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on n'a pas dit. Les autres jouent les caïds pour une bille, puis une fille, le poil s'hérisse, les dents graissent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal, la moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde. Chacun sa voix, sa vie, devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un caille, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. Un chambara, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby card grandit entre le fer et la foi. La foi c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplie place le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui, un billet pour le manège, gratuit, verrouillé, la nuit, les lampadaires se morfent en mec, une seule quête, les pépettes, quand t'as les sous, tu drives une 720, et tu touches des seins en lutte, souvent on bute sur le pied du voisin, espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains, pour tout et rien, ça finit devant témoin, et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens, comprends bien, c'est une réalité, pas une BD, l'essence toujours éveillée, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verset pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras, on n'est pas né pour ça. Même vaincu, on se jettera dans la bataille, pour l'honneur, comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï.
Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du 25 mai 2020 et vous venez d'écouter, vous l'avez bien reconnu, Shuriken avec Samouraï. Et on enchaîne tout de suite donc au National avec un sujet sur Macron et l'extrême droite.
Alors, la nouvelle a fait grand bruit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Suite à l'intervention directe du président Emmanuel Macron, le parc Le Puy du Fou a été autorisé à rouvrir, alors que la quasi-totalité des événements culturels d'ampleur, comme le Festival d'Avignon par exemple, ont été déprogrammés pour le déconfinement. Alors, le propriétaire du parc, le royaliste Philippe de Villiers, s'est directement vanté sur les réseaux sociaux des faveurs présidentielles. C'est que Macron et lui nourrissent une amitié de longue date. Ils s'étaient rencontrés à la Rotonde, restaurant de la grande bourgeoisie parisienne, et De Villiers avait soutenu Macron pendant les présidentielles. Alors, le passe-droit ici est énorme et symptomatique de la solidarité de classe au sein de la haute bourgeoisie. Mais il est d'autant plus grave que De Villiers est une figure majeure de l'extrême droite française, partisan du grand remplacement, islamophobe virulent, considérant l'IVG comme un crime contre l'humanité et l'homosexualité de menace pour la société. Quant à son parc, le Puy du Fou, il s'agit d'un parc à thème historique servant à transmettre un récit de l'histoire nationale fantasmé par l'extrême droite, celui de la France éternelle, ancestrale, chrétienne et blanche, qui trouve ses racines dans la Gaule, ancestrale justement. Un révisionnisme historique de masse, le parc attirant de nombreux visiteurs, qui est fréquemment dénoncé par les historiens et qui vise à légitimer des idéologies droitières en cherchant à leur donner une profondeur historique. Un exemple concret de manipulation de l'histoire dans le parc, c'est l'image donnée à la Révolution française comme une immense boucherie avec la terreur qui aurait mis fin à des années, des siècles de paix et de stabilité offertes par la royauté française. Alors clairement, ce soutien de Macron ne tient pas que de l'échange de bons procédés. Il est lié à une proximité idéologique. Macron se reconnaît parfaitement dans ce roman national qui fait de grands hommes, influents sur le cours de l'histoire par leurs actes et leurs carrures. Lui-même se rêve en fait en grand homme de pouvoir, marquant la France de son empreinte indélébile. Une mégalomanie qui se retrouve dans sa pratique monarchique du pouvoir. Hein. Macron veut tout gérer directement, aux dépens de ses ministres, occuper tout l'espace médiatique, se donne des airs solennels à longueur de temps, abuse à outrance des fastes du régime, en particulier quand il s'agit d'accueillir des chefs d'État à Versailles. Alors cette proximité historique avec l'extrême droite de Macron n'est pas nouvelle. Hein. Le 1er mai dernier, il avait contacté par exemple Éric Zemmour pour lui faire directement part de son soutien après une agression verbale dans la rue. Et ce alors que le polémiste fasciste a été condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale. Le 11 février dernier, Macron faisait aussi directement référence à l'antisémite Maurras dans un discours en reprenant sa fameuse distinction entre pays réel et pays légal. En novembre 2019, c'était Élie Hatem, l'ancien chef de l'Action française, qui était accueilli en grande pompe à l'Élysée. Et pour finir, le 30 octobre 2019, Macron accordait à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles une interview exclusive dans laquelle il se lâchait complètement et sortait des réflexions qui fleuraient avec le lépénisme. Du coup, ces derniers mois auront au moins eu pour effet de dévoiler pour de bon hein, que la grande supercherie du barrage à l'extrême droite pour les présidentielles de 2017. Si la couleur politique fasciste n'est pas directement clairement au pouvoir, ses idées y sont bien. Autoritarisme, surveillance, répression, police militarisée, politique antisociale, racisme d'État, islamophobie et j'en passe. Seule encore subsiste la loi pour la PMA pour toutes, pour donner le change. Mais ne nous y trompons pas, donc l'antifascisme, plus que jamais, se doit aussi d'être un antimacronisme, tant celui-ci est en train d'ouvrir la voie à l'extrême droite.
Et on passe maintenant à Pénicaud, qui n'aime pas trop Éric Bézout.
Alors, qui est Éric Bézout? Il y a une grosse campagne de soutien à ce monsieur, qui est un travailleur cheminot à la gare de Mantes-la-Jolie et qui est délégué syndical à Sudrail. Pourquoi cette grosse campagne? Eh bien, tout simplement parce qu'il est directement menacé de licenciement par cette raclure de fond de bidet qui est Muriel Pénicaud, ministre du Travail. La raison, elle est assez délirante. En mai 2019, Éric Bézout s'est agenouillé devant sa supérieure hiérarchique au cours d'un entretien annuel en demandant si c'était l'attitude attendue d'un subalterne. Il était alors passé en conseil de discipline, la direction de la SNCF souhaitant très clairement le licencier. Mais, car il y a un mais, ça n'avait pas été possible car ces salauds de gauchistes de l'inspection du travail n'avaient pas autorisé la radiation définitive pour motif disciplinaire. Pas de problème pour la direction de la SNCF, on contourne l'inspection du travail par un recours hiérarchique auprès du ministère du Travail. Et il y a qui au ministère du Travail? Il y a Muriel Pénicaud, qui, on le sait, n'est pas du côté des travailleurs et des travailleuses, et encore moins des syndicalistes, surtout ceux qui dérangent, comme Éric Bézout. Elle a donc fait savoir il y a quelques jours qu'elle était favorable au licenciement. En vérité, Pénicaud et la SNCF utilisent cette action de mai 2019 pour se débarrasser d'un syndicaliste de terrain particulièrement efficace. Il a mis à plusieurs reprises la SNCF au prud'homme pour soutenir des collègues et il a gagné. Il a mené de nombreuses campagnes syndicales en interne, notamment contre les régulières réorganisations managériales qui alourdissent le travail, déjà fatigant des cheminots. En 2017, il avait écopé d'une mise à pied de 10 jours pour des tweets estimés injurieux de type « Tartuffe sociopathe ». Ça vaut bien 10 jours, franchement, de mise à pied. Hein. Il a participé à toutes les grèves de ces dernières années, évidemment, notamment contre la loi travail, les ordonnances Macron, merci à Muriel Pénicaud d'ailleurs, la réforme du rail et la réforme des retraites. C'est donc pour l'ensemble de son œuvre et de ses activités syndicales et militantes qu'il risque bien de se faire licencier avec l'accord de la ministre du Travail, qui n'en finit plus de court-circuiter l'inspection du travail. Voilà pourquoi il faut à tout prix soutenir Éric Bézout et empêcher son licenciement.
On continue au national avec une grève de la faim qui a lieu au CRA de Ménilhamlo.
Alors l'ECRA, on en parle tout le temps et ça devient difficile de ne pas se répéter. Le problème, c'est que la situation dans les centres de rétention administrative ne change pas et que les problèmes persistent. Et alors on continue à relier ce qu'il s'y passe en ce moment. Et en ce moment, c'est une grève de la faim dans le CRA de Mesnil-Amelot. Dans beaucoup de CRA, le coronavirus n'a pas empêché l'enfermement qui s'est poursuivi même pendant le confinement et se poursuit encore. Et au CRA de Mesnil-Amelot, l'enfermement s'est même accéléré grâce à une décision pourtant à la base à peu près intelligente de ne plus enfermer dans le CRA de Vincennes. Pourquoi ? Eh bien parce que quelqu'un qui présentait les symptômes du Covid-19 y a été enfermé sans être testé, provoquant la contagion d'autres prisonniers de cette prison pour étrangers. Une ordonnance a fini par être publiée le 15 avril dernier interdisant d'enfermer de nouvelles personnes dans ce CRA. Attention, les personnes déjà à l'intérieur y restent. Il ne s'agit pas non plus de reconnaître l'absurdité d'enfermer des étrangers quand les frontières sont de toute façon peu ouvertes ou de les enfermer tout court d'ailleurs. D'autant plus que les arrestations de sans-papiers ne sont pas arrêtées pour autant. Ces derniers ont simplement été amenés jusqu'à Vincennes, donc dans le CRA où il y a une grève de la faim. Pardon, je me suis embrouillée, c'est à Mesnil-Amelot qu'il y a une grève de la faim en ce moment. Depuis le 20 mai, et où on ne teste pas plus les gens avant de les ayant testés, et où il n'y a pas de raison que ce qui s'est passé à Vincennes ne se passe pas. Et comme d'habitude, quand c'est possible, on vous relaie des paroles qui viennent de l'intérieur. En voici des extraits que vous pouvez retrouver en intégralité sur le blog Abat les CRA. À noter que ce témoignage a été recueilli avant la fin du ramadan. Il est un peu long, mais il résume beaucoup mieux que ce que je ferais ce qu'il se passe en ce moment dans le CRA. Donc, les conditions ici sont les conditions Covid-19. Toujours on est limité, livré à nous-mêmes. Il n'y a pas de mesure de sécurité, tout le monde se plaint. Même avant, les gens, ils ne veulent pas aller manger au réfectoire parce qu'il n'y a même pas 5 cm de mesure de sécurité, alors qu'on nous demande 1 mètre de mesure de sécurité. La nourriture, non seulement elle est pourrie, mais ils ne nous respectent pas. Limite, on est comme des tortues. On fait carême, on fait ramadan, le soir, ils nous donnent des salades. Il n'y a pas de respect. La dernière fois, pour couper le jeûne du matin, on est parti, ils nous ont dit « il n'y a pas de pain ». Ils se foutent de nous, en quelque sorte. Vous voulez qu'on coupe le jeûne avec un café crème tout seul, sans pain, ni eau, ni rien ? Ça ne nous a pas plu. La deuxième chose, c'est qu'ils n'arrêtent pas de ramener des gens de prison. Et ils ne sont même pas testés. Hier soir, il y a quelqu'un qui a témoigné. Je viens de prison, j'étais avec quelqu'un en cellule qui avait des symptômes. Ils m'ont fait rentrer ici, ils ne m'ont pas fait faire de dépistage. Il n'y a pas eu de test, c'est toujours la même chose, ils ne veulent pas savoir. La distribution de masques, ça ils l'ont fait, le jour où on a parlé avec France 2. Ils sont venus. Ah ouais, ce jour-là, on a fait la distribution de masques, pour camoufler le débat. Les journalistes, quand ils viennent, ils vont découvrir qu'on a les masques, qu'on a les conditions sanitaires contre le Covid-19. Mais depuis ce jour-là, il n'y a plus de distribution de masques ou encore de solutions alcoolisées. Les gens sont confrontés à eux-mêmes. La nourriture, elle est pourrie, on ne peut pas manger, on ne veut pas manger. Ce n'est pas de la nourriture pour le mois de ramadan. C'est un choc mondial, sous-entendu le Covid-19. Moi, personnellement, je suis parent. Il y a plein de gens qui sont là, ils sont parents. Il y a même le CRA en face, il y a des familles. Si dans cette période-là, je ne peux pas être avec mes enfants, je ne pourrai jamais être présent. Avant qu'on commence la grève de la faim, il y a des gens, ils mangeaient dehors sur le béton parce qu'ils voulaient éviter la contamination. Hier, les flics, ils sont venus deux fois à l'heure du manger. Ils ont insisté pour qu'on mange. On leur a dit, non, on mange pas. C'est notre droit. Ils ont dit, c'est comme vous voulez, demain il va faire chaud, etc. On a dit, on n'a pas envie. À 3h30, ils sont revenus pour couper le jeûne du matin, pour le petit déjeuner. Ils nous ont dit, ça sert à rien. Nous, on est là depuis longtemps, une grève de la faim, ça sert à rien. Vous allez voir, vous allez vous faire mal à vous tout seul, et ça vous servira à rien. En contrepartie, le message que vous voulez faire passer, il ne servira à rien, personne ne sera libéré. Du coup, le policier, il a dit, moi, personnellement, il faudra qu'on parle au chef du CRA pour les visites, s'il y a possibilité que les gens de vos connaissances, vos familles, qui viennent en visite, vous ramènent à manger. 2-3 jours avant, c'était quasiment impossible, strictement interdit qu'on nous ramène à manger. Si on mange, on va casser notre grève. Il y a de l'intelligence, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un piège. J'ai demandé pourquoi, il y a 2-3 jours, c'était strictement interdit, et maintenant qu'on a commencé la grève de la faim, ça devient négociable. Si par exemple je me fais ramener un grec ou un tacos, quand je vais le manger, ils vont marquer que j'ai mangé et je fais plus la grève de la faim. Je suis dégagée de ce truc-là. Pour eux, l'objectif, c'est de ne pas être relâché. Il y a un autre truc que je voudrais rajouter, c'est le déconfinement. Au moment de la convocation, pourquoi ils ne nous prennent pas au tribunal pour assister à l'audience ? Alors dans la feuille, c'est écrit, par mesure de sécurité sanitaire au Covid-19, on ne peut pas y être présent. Et au retour, on est marqué absent. Quand on reçoit un appel du greffe pour nous remettre l'ordonnance, qu'on n'est pas relâché, on est marqué absent. Pourquoi c'est pas marqué ? La personne, elle n'a pas été présente par mesure sanitaire du Covid-19. Donc si le juge, il se préserve, il sait bien qu'il y a un risque de contamination ici. Il se préserve de nous. Pourquoi le juge, il se préserve de nous ? Et puis ensuite, ils te disent qu'il n'y a pas de risque. Comme la dernière fois, il y a quelqu'un qui a fait une demande de libération par rapport au Covid-19, ils lui disent qu'il n'y a pas de risque. Voilà, on n'a même pas notre mot à dire. Comment il sait, lui, le juge, qu'il y a toutes les mesures de sécurité ? Comment ? Comment vous, en tant que juge, vous pouvez savoir qu'ici on a tout alors que vous ne nous acceptez même pas ? Moi, personnellement, le déconfinement, il est passé le 11. Normalement, déconfinement le 11. J'avais tribunal le 12. Ils m'ont dit, t'assistes pas. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui va au tribunal. Alors, le déconfinement, il sert à quoi? Les juges, eux, ils se préservent. Voilà, et vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le blog à Balécra.
Et on passe maintenant à un sujet sur la manif devant l'hôpital Robert Debré à Paris.
Et oui, alors qu'aujourd'hui débute le Ségur de la santé, si bien nommé, sous la tutelle de, devinez qui, Nicole Notat, ex-directrice de la CFDT pendant plusieurs années. Et bien pendant ce temps-là, les soignants et les soignantes de l'hôpital Robert Debré y mettent la pression sur le gouvernement pour refonder l'hôpital public. Est-ce qu'on aurait affaire maintenant à une nouvelle forme de mobilisation depuis la fin du confinement ? Dans la suite de la dynamique du défilé syndical qui avait lieu à Toulouse et dans la dynamique aussi du rassemblement au CHU de Saint-Étienne, eh bien cette fois-ci c'est le collectif interhôpital Robert Debré qui a appelé à, je cite, hashtag jeudi colère, un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis du coup, qu'il a lancé. C'est donc une proposition forte qui est sur la table et qui est peut-être vouée, qui sait, à se répéter dans plusieurs autres villes. Jeudi 14 mai, donc, c'était la première fois que les personnels de l'hôpital pédiatrique Robert Debré sont sortis de l'hôpital pour manifester leur colère. Rebelote, jeudi 21 mai, donc jeudi dernier, l'opération est relancée. Cette fois-ci, les soignants et les soignantes sont rejoints par des centaines de personnes qui partent en manif. Ça finira plus ou moins bien, les flics sont pas du tout d'accord, 3 personnes se font interpeller et s'en tirent avec des rappels à la loi et une centaine d'amendes ont été à l'occasion distribuées. Et ben oui, il faut bien remplir les caisses. Je vais lire les points essentiels qu'on retrouve, enfin les revendications essentielles qu'on retrouve dans la charte du collectif de l'hôpital. Alors, point 1. Ils veulent un changement de logique dans le financement de l'hôpital public avec l'abandon de la tarification majoritaire à l'activité. La règle doit être le juste soin pour le malade au moindre coût et non la recherche du tarif rentable pour l'établissement. Point numéro 2. Une augmentation significative des salaires des personnels hospitaliers avec comme objectif la moyenne des salaires des pays de l'OCDE pour des postes équivalents. Point numéro 3. L'arrêt des fermetures de lits d'hospitalisation et de l'ouverture de lits dans les services où cela s'avère indispensable avec l'attribution de moyens, embauche des personnels et équipements. Et point numéro 4, l'intégration et l'association des usagers et des soignants, toutes catégories confondues, aux décisions et projets de soins. Bref, on l'aura compris, cette charte va devenir un repère clair et net qui permettra ensuite de juger la valeur politique des décisions réelles qui vont être prises dans ce Ségur de la santé. Et on verra bien s'ils sont à la hauteur de l'enjeu.
Et on passe maintenant à la Martinique.
Eh oui, alors ça ne s'invente pas. Le 22 mai dernier, jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Martinique, la préfecture locale n'a rien trouvé de mieux que de diffuser un visuel foncièrement raciste pour promouvoir les gestes barrières face au Covid-19. Alors dessus, on pouvait trouver écrit « distanciation physique, 1 mètre ou 5 ananas ». Alors, au-delà du fait que c'est absolument sans aucun sens, la connotation raciste à la mode « Yabon Banania », elle est assez explicite. Hein. Le Martiniquais, ça reste le joyeux grand noir, souriant, un peu niais, un peu feignant et qui cultive des fruits exotiques. Aucun doute en tout cas que cela doit être l'image que se font des administrés martiniquais, les fonctionnaires blancs et métropolitains de la préfecture de Fort-de-France. Et comme une réponse à cette énième manifestation de racisme de la puissance coloniale française, un groupe de militants martiniquais a détruit au même moment 2 statues de Schlosser sur l'île. Alors, je ne suis pas sûr de la prononciation, hein, mais Schlosser est considéré dans l'histoire officielle comme une grande figure de l'abolition, enfin de l'abolitionnisme, car ayant poussé à l'adoption du décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. Toutefois, depuis plusieurs décennies, beaucoup d'historiens martiniquais dénoncent une histoire eurocentrée qui le place lui, et plus généralement l'abolitionnisme européen, comme acteurs principaux, voire exclusifs de l'abolition de l'esclavage. Alors tout d'abord, car cette histoire dissimule le rôle majeur des esclaves, eux-mêmes lors des insurrections du 22 et 23 mai 1848, qui ont de fait abouti à l'abolition concrète et effective de l'esclavage sur l'île, alors que le décret adopté par Schlosser était complètement inappliqué. Ensuite, car cette histoire officielle cache les motivations intéressées des abolitionnistes européens. La critique de l'esclavage qu'ils menaient, comme archaïque sur les plans moraux et économiques, avait en fait pour seul but de réformer et donc préserver le système d'exploitation coloniale en Martinique, enfin, ou en général. À l'inverse, justement, de ce qui s'est passé à Haïti au début du 19e siècle, lorsque les esclaves ont pris leur indépendance via une insurrection armée. Alors, portée par des penseurs libéraux comme Adam Smith, l'idée que le travail libre était plus rentable que l'esclavage a largement motivé, justement, l'abolitionnisme européen. Alors, en réalité, outre le fait que l'esclavage a continué sous la forme du travail forcé, ben cette l'exploitation des colonies a pu perdurer grâce justement au travail libre. Ainsi, contrairement à ce qui peut être dit dans certains médias qui voyaient un acte pro-esclavage, ce vandalisme, le refus de Schlosser derrière ce vandalisme, c'est un refus de la perpétuation du colonialisme sous d'autres formes et une volonté d'affirmation et d'indépendance du peuple martiniquais. Donc aujourd'hui encore, la lutte contre l'exploitation et la prédation coloniale française se poursuit et on leur souhaite bon courage.
Et avant de continuer au national, on fait une petite pause musicale avec la rappeuse Billy Breloc et son morceau Vertigo.
Siéger le ciel, acheter les étoiles, gaspiller le sol et spéculer sur son système vagal. Que depuis la DSL, qu'on s'enfile en intravénal. On est tous un peu immortels sur le réseau mondial. Je m'en kébarre dans cette foule, camouflage ordinaire. Je nique vos caméras boules et ses clébards GPSR. Devant les garde-fous, vus du bas des buildings. Les gargoulages des nerfs fous, ils font clinquer leur chin-chin. Il faudrait quoi que ça me déclenche ces mêmes désirs disciplinés de grimper, bon gré la hanche d'un édifice mal fixé. Mais c'est trop loin le sommet, mes bœufs fatiguent déjà. Même quand je leur promets qu'après c'est le nirvana. Elles m'ont dit ce projet, Billy c'est pas pour toi. T'as pas le bon ticket, t'es pas dans ce wagon là. C'est l'attraction terrestre qui te cloue au plancher. Ta ration par trimestre, de raison en tranchée. Faut pas que je me défenestre, une fois que je serai débranché. Sur les restes de ces rengaines bien pliées dans mon grenier. J'étais devant toi, tiens-toi debout, je te lâche ta main dans l'escalier. Laisse être en barre, lâche ton trois roues, je veux te voir crôler jusqu'à la bouée. Fais-moi tanguer ce bazar, où c'est que t'as vu bordel. Que dans les sales histoires, on descend en jamais loin, si l'attaque option étanche, il gangrène par le coin. Sois le pilote de ta page blanche, j'écrirai dans la marge. Même quand tu auras plus de papier, t'inquiète qu'il m'en reste des passes de barge à te faire siroter. Si jamais je me perds le top, ce serait que j'ai pas pied. Là, tu sais pas si c'est trop haut, ça peut me donner envie de sauter. Haute voltige, grande déluge, déluré en délire. Je veux du vertige, je veux que ça dure, que ça frise et fustige le pire. Déjouer le tour des choses en rafale de piston, ce sera au moins grandiose. Ça vaut pas le coup sinon, faut que ça me torgnole en bon branquignol. Que ça gondole quand ça décolle et que ça me colle comme la fat école. Et puis je m'emballe et je perds les pédales. Je cale où mes freins font la malle et ça dévale à balle avant de faire mal. Ma plume se contracte, je me tétanise en pleine envol. Sonner l'entraxe, c'est quand le sol. Y'avait un pacte avant que je déconne. Panne de courant dans l'ascenseur, le commandant est déserteur. Rappé par le couche de sapeur, dictateur de l'interrupteur. Il est tombé dans le trou de son self-made merdier. Mais le petit coup de grisou, c'est le risque du métier. L'ennui prise de vie, ça voyait aux éclats comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. Ça peut donner envie de sauter. L'ennui pris sur le vif aboyé aux éclats comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. Ça peut donner envie de sauter. L'ennui pris sur le vif aboyé aux éclats comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. À marée basse, le marasme se démarque en marécage. Je démarre au quart de tout passe-passe, à marée au barreau de ma cage. Adage de ramage et plumage, m'amadouais pas dans leur sillage. Ni mon panache, ni son tapage, quand ils paradent dans les parages. Paré au décollage, les hélices s'affûtent, on fait son bricolage. On compte les minutes, si je crois que j'ai capté le message. L'important c'est que ça bute, je l'ai déjà foiré l'atterrissage. Laisse-moi kiffer la chute, 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 chute.
Vous venez d'écouter Vertigo de Billy Breloc sur la plus rebelle des radios. Vous écoutez toujours le Canu Info du lundi. Et tout de suite, on reparle de Sabri à Argenteuil.
Ouais, alors on vous en avait parlé la semaine dernière. Sabri, donc, ça se passe à Argenteuil. C'est ce jeune homme de 18 ans qui a percuté à moto, sans casque, un poteau électrique, ce qui a provoqué sa mort. Mais les versions divergent sur les circonstances. La BAC, soutenue par le procureur et le ministère, comme d'habitude, dit qu'elle a simplement croisé Sabri et que celui-ci est allé se planter tout seul dans le poteau en essayant de les éviter. Bon, évidemment, ils disent ça car ils n'ont plus le droit de prendre en chasse des motards vu le nombre de morts. Sauf que, ils le font très régulièrement et le nombre de morts continue d'augmenter. Et on a effectivement du mal à imaginer la BAC ne rien faire alors qu'elle a en face d'elle un jeune de quartier populaire en moto sans casque. Et puis, dommage pour eux, il y a un témoin qui dit avoir vu la voiture de la BAC tenter de barrer la route au jeune homme, ce qui aurait donc provoqué sa mort. Et ça non plus, ils n'ont pas le droit de barrer la route de quelqu'un qui est en moto et sans casque. Les avocats de la famille de Sabri ont montré qu'il y avait des incohérences dans l'enquête et dans les faits rapportés par les policiers. La scène du drame a été nettoyée très très vite et des preuves ont été perdues. C'est bien pour ça que les nuits qui ont suivi ont été un peu chaudes à Argenteuil. La police a très durement réprimé les débuts d'émeutes ici ou là, quelques feux d'artifice, quelques feux de poubelle et quelques voitures incendiées. Pas grand-chose, quoi, contrairement à ce qu'ont pu lâcher comme remarques racistes et réactionnaires certains journaleux inféodés au pouvoir. Face à cette colère légitime, la justice de classe a à nouveau tranché. Déjà deux jeunes de plus en tôle qui ont pris 6 mois de prison ferme la semaine dernière, suite aux émeutes. C'est pour toutes ces raisons que jeudi dernier, il y a eu une mobilisation sans précédent depuis le début du confinement, enfin depuis la fin même du confinement. Plusieurs milliers de personnes ont marché dans les rues d'Argenteuil, calmement mais sûrement, pour réclamer la justice pour Sabri, et plus généralement la fin des violences policières dans les quartiers populaires. Plusieurs comités Vérité et Justice étaient présents à cette manifestation, comme le comité Adama Traoré, pour rappeler que la police, tue encore et toujours, en toute impunité, dans les quartiers populaires, qu'elle tabasse, qu'elle insulte, qu'elle humilie, se comportant en véritable milice armée couverte par l'État sur ses exactions beaucoup trop régulières. Donc justice pour Sabri, et on n'oublie pas, on pardonne pas.
Et on continue avec un autre sujet sur la police, cette fois-ci avec une critique de la part de la chanteuse Camélia Jordana.
Oui c'est ça, puisque samedi dernier, il y a eu un autre début d'affolement chez les flics. Camélia Jordana, qui est chanteuse et qui apparemment a récemment tourné dans un film, se retrouve sur le plateau de On n'est pas couché. Et pour que vous n'ayez pas besoin d'allumer votre télé, voici ce qu'elle a dit. Extrait. Peut-être.
Il faudrait savoir, soit ces gens-là sont là pour nous protéger, sauver nos vies il y a 5 ans, on ne voit pas quoi, ce serait des salauds et des ordures aujourd'hui. Bon.
Excusez-moi,
mais
en fait, il y a des hommes et des femmes qui se font massacrer quotidiennement, en fait, tous les jours, pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Donc en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont fâchés.
D'accord, mais ça, Camélia, c'était déjà le cas avant. C'était déjà le cas avant quand on les applaudit, ça.
Parce qu'il n'y a personne dans les rues.
Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de taper les manifestants, ça oui. Mais les flics
qui tentent. Pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait.
Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité. Et je voudrais pas qu'on l'oublie.
Ils sont censés, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie.
Je l'entends.
Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Vraiment.
Eux aussi sont parfois attaqués quand même, vous êtes d'accord, les flics.
Il y a quand même des flics qui suicident. C'est comme me parler de féminisme et de me dire, oui mais quand même, il y a des gonzesses qui... En fait non, le combat est tel qu'on ne peut pas du coup voir l'espèce de virgule qui serait l'arbre, qui cacherait la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question en fait. Je suis désolée. En fait, s'il y avait autre chose que des non-lieux en permanence, s'il y avait autre chose qu'une Assa Traoré qui se fait mettre en examen, Assa Traoré est mise en examen, elle a d'autres frères en prison aujourd'hui.
Voilà, donc, on a eu un petit problème de micro tout à l'heure, mais vous venez d'entendre Camélia Jordana qui parlait samedi dernier sur le plateau de On n'est pas couché. Et c'est vrai, elle a raison, il y a des gens qui se font tabasser par la police parce qu'ils sont noirs ou arabes. Ce n'est pas la seule raison, un jeune blanc qui vit en cité n'est pas à l'abri. Et si Camélia ne parlait pas ici des manifestants, les manifestants se font quand même aussi facilement tabasser. N'empêche que c'est vrai que le seul critère de la couleur de peau suffit dans de nombreux cas pour que la personne subisse des violences policières. Pendant le confinement, il y a eu... des vidéos. On ne peut pas avoir déjà oublié les policiers qui souhaitaient à un arabe de se noyer et regretter de ne pas lui avoir attaché une pierre au pied. À ce moment-là, même Christophe Castaner avait dû dénoncer ces policiers. Eh bien, sachez que ça s'est arrêté là, hein, l'engagement de Christophe contre le racisme dans la police, puisqu'il a répondu aux propos de Camélia Jordana sur Twitter en la traitant tout simplement de menteuse. Puis il a enchaîné des posts disant que pendant le confinement, c'était surtout les rodéos urbains qui avaient augmenté pour tenter de faire oublier que pendant le confinement, en fait, c'est surtout le nombre de morts causés par la police qui a augmenté. Et c'est surtout lui le menteur, puisqu'il y a bien du racisme dans la police. À chaque fois que le défenseur des droits fait un rapport sur le sujet, il en conclut que les Noirs et les Arabes se font plus contrôler et plus violenter. Il y a des chiffres qui le prouvent. Bref, en ce moment, sur Twitter, il y a deux hashtags, puisqu'apparemment tout se passe sur Twitter en ce moment. Un lancé par Assa Traoré, qui s'appelle donc hashtag moi aussi j'ai peur devant la police, et un autre pour critiquer, les propos de Camélia Jordana, hashtag je ne suis pas Camélia Jordana, lancé pour le coup par un juriste qui vote LRM, qui le dit sur sa page Twitter, hein, qui est noir mais qui en effet est plutôt dans une classe sociale épargnée par les violences policières. Le premier, d'Assa Traoré, totalisé il y a quelques heures plus de 33 400 utilisations, et le deuxième environ 6 800. Donc il y a beaucoup plus de gens qui tiennent à rappeler que la police fait peur et qui ne se sentent pas protégés par elle que de gens qui veulent faire remarquer qu'ils ne sont pas Camélia Jordana. Pas de surprise. On a quelques petites dates peut-être.
Ah oui, donc là c'est l'agenda finalement, c'est ça?
Genre, c'est ça.
Ça passe vite. Hein.
19h40. Alors, on peut parler de ce qu'on sait et de ce qu'on fait un peu. Alors, à l'espace communal Guillotière, au 45 rue Béchevelin, il y a des distributions de bouffe pour celles et ceux qui en ont besoin, les mercredis et vendredis à partir de 17h30. Et le jeudi, il y a ce qu'on appelle le marché rouge, ce qui permet d'obtenir des légumes à 1 euro le kilo, ou moins si t'as pas les thunes, ou plus si t'en as un peu plus. Voilà pour la Guillotière, donc n'hésitez pas à faire tourner, à passer, filer des coups de main. C'est un squat qu'on a ouvert il y a déjà quelques mois et qui vaut le coup.
Un petit point à ce qui se passe à Cusset, à Villeurbanne. Les distributions continuent aussi le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Faut pas hésiter à venir filer un coup de main. Il y a de plus en plus de monde qui vient, entre 80 personnes par jour. Et voilà, notre solidarité reste notre arme. Du coup, on appelle à ce que l'organisation de quartier se multiplie dans tous les quartiers.
Et je crois que c'est tout pour...
Oui, on peut finir pour dire qu'il y a un rassemblement mardi en soutien aux hospitaliers devant l'hôpital, enfin demain du coup, devant l'hôpital Édouard Herriot. Pour l'heure exacte, je vous
c'est
invite...
C'est 13h30, de 13h30 à 15h devant l'hôpital Édouard Herriot demain.
Et de toute façon, vous n'hésitez surtout jamais à aller sur Rébellion pour avoir toutes ces informations et plus encore.
Voilà, ben là il nous laisse encore une fois un peu de temps pour désinfecter le studio et puis un peu de bande continue avant de passer à Blasphème FM. À la semaine prochaine.
Heureuse et bouleversante, quand la vie offre ce qu'elle a de meilleur et de plus redoutable. À l'aube de ce virage incertain, je me suis réveillé orphelin. Je ne pouvais plus bouger, j'avais le dos détruit, les genoux, les tibias, les chevilles embouillies. Je n'avais plus de voix, un animal en panique, pris dans les phares d'un véhicule invisible, avec pour seul refuge cette colère pourtant apprivoisée. Au fil des années, je suis retombé dans son piège, des coups de poing dans le vide, dans toutes les directions. Je brassais du vent, me cognant partout, parfois jusqu'au sang. J'étais perdu toi aussi, encore plus que moi-même. Ta première expérience du deuil, de l'absence. Tu étais le fils, j'étais le père. Un million de questions sans réponse. Cette même colère, des coups de poing dans le vide, des coups de poing dans l'air. J'aurais bien voulu te rassurer, car tu avais peur, j'en étais incapable. J'avais peur, moi aussi, d'expliquer l'inexplicable. Pour accepter l'inacceptable, le temps s'en chargera à ma place, malgré toi. Pas d'autre issue de secours que de transformer cette rage en énergie, en amour. Ce que j'avais à faire pour toi, recycler cette colère. Ce que j'avais à faire, à nouveau entrer en guerre. Recycler cette colère, recycler cette colère, car aujourd'hui plus qu'hier, cette colère reste mon meilleur carburant. Recycler cette colère, recycler cette colère.
C'était Cette colère par Michel Clou, juste avant Heavy Trash avec One of These Days, et encore avant Fatal Picard avec Noir. Vous écoutez bien Radio Canu, la plus sombre des radios.